témoin aujourd'hui.
Une rencontre avec Marguerite Oppenau, fondatrice du mouvement Sève. Une émission réalisée avec le mensuel Panorama. Marguerite Oppenau, que nous allons entendre dans quelques instants, est née le 3 juillet 1901. Mais comme vous allez vous en rendre compte, Marguerite Oppenau est d'une incroyable jeunesse. De cette jeunesse qui jaillit d'un regard émerveillé sur la vie et surtout d'un cœur aimant. En 1938, Marguerite Oppenau a fondé un mouvement de laïcs chrétiens, le mouvement Sève, un mouvement qui compte aujourd'hui plus de 3000 membres. Mais ce n'est pas le mouvement Sève que je souhaite vous faire découvrir aujourd'hui sur Fourvière FM. Non, je vous propose plutôt d'écouter cette femme, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, qui, un jour, fut saisie par l'amour du Christ. Elle nous dit justement, pour commencer cet entretien, ce qui a été à l'origine de sa démarche.
Voilà, un jour, il y a 60 ans de ça, j'ai deux paroles de l'Évangile qui m'ont absolument saisie. C'est « Dieu est amour, il crée à l'être humain son image ». Je me suis dit, nous ne pouvons tout de même pas être des images de Dieu, l'inimaginable. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça? Et tout d'un coup alors, j'ai été comme tout éclairé. Ah oui, Dieu est l'être divin avec un grand E, et l'homme est un être humain avec un petit E. Ah, il y a une parenté d'être entre Dieu et l'homme. Voyez-vous, ça a été le déclic de toute ma vocation.
Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez compris?
Alors j'ai compris tout d'un coup qu'il y avait une relation d'être entre Dieu et l'homme, une relation vitale entre Dieu et l'homme. Avant cela, eh bien, avant Jésus-Christ, Dieu était le tout autre là-haut, le grand bon Dieu, le grand monarque, personne ne l'avait jamais vu, vous comprenez. Et brusquement, tous les hommes sont en somme quelque peu de la race de Dieu, si vous voulez. Il y a une parenté vitale entre Dieu et l'homme, une parenté d'être. Dieu est l'être divin et l'homme est l'être humain.
Ce qui fait suite à cette phrase de la Genèse, c'est que Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert tout de suite?
Alors c'est si vous m'entraînez là-dessus. Alors homme et femme, il le créa. L'être humain est double, masculin, féminin. Voilà. Il n'y a de vie, la vie ne naît que de l'unité des diversités. Alors, c'était encore un nouveau fondement fondamental. Et puis après, si vous voulez, une troisième parole. C'est « Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Comme toi et moi nous sommes un. » C'est extraordinaire. C'est « comme » de la parole de Jésus-Christ. « Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Car si mes enfants ne sont pas un, on ne pourra pas croire que j'étais ton fils. Je n'étais qu'un prophète. Et alors on cherche d'autres prophètes. Et ce sont les sectes qui se multiplient. » Voyez-vous, pour moi, d'abord, là, nous allons revenir tout à l'heure sur la première parole, mais c'est trois paroles de Dieu. Dieu est amour, il crée l'être humain à son image. La découverte de l'être humain, image de Dieu, porteur d'un germe de vie divine dans son cœur. La seconde parole, homme et femme, il le fit. La vie ne naît que de l'unité des diversités. La vie est double, l'être humain est double. Et puis finalement, Père, qu'il soit un comme toi, moi nous sommes un, c'est toute l'aventure de l'unité, la fraternité humaine.
Donc tout ce qui fait votre itinéraire, votre cheminement spirituel jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui fait le fondement du mouvement Sève, s'enracine dans ces paroles.
Exactement, c'est trois paroles. Mais ces trois paroles qui sont inépuisables.
Alors j'aimerais bien avec vous...
Pas simplement inépuisables, monsieur, voyez-vous, dans la réflexion, dans la pensée, mais si tu vis cela, parce que ce sont des paroles de vie. Ce qui est extraordinaire, voyez-vous, c'est que Jésus-Christ a dit « Je suis la vie ». Avant Jésus-Christ, personne n'avait jamais vu Dieu. On ne pouvait que l'imaginer. On pensait, c'était la pensée. Mais Jésus-Christ a dit « Je suis la vie ».
Qu'est-ce que veut dire ce mot « vie » ?
Ce mot « vie », eh bien, c'est que la vie ne naît que de cette unité des diversités, vous comprenez ? Le principe de la vie, c'est cela. Que ce soit la vie végétale, la vie animale, la vie humaine et la vie divine. Voilà.
C'est un mot qui est un mot clé chez vous.
C'est le mot clé. Le mot le plus important du christianisme, c'est le mot « vie ». Jésus-Christ a remis toute l'aventure religieuse, si vous voulez, sur le plan de la vie. La vie, ça ne veut pas dire les faits de vie, ce qu'on vit, non. Mais le mystère de la vie. Jésus-Christ a révélé le mystère de la vie, qui est un mystère d'amour, car finalement, en se disant fils de Dieu, bah, il a révélé qu'il ne pouvait être que le fils de l'amour. Et que Dieu ne pouvait être que communion.
Mais alors,
si nous réfléchissons bien, la vie ne naît que d'un foyer. Il n'y a jamais que l'amour qui a donné la vie.
Mais concrètement, ce sont des choses que vous avez découvertes dans votre vécu, dans votre existence.
Dans mon vécu, parce que j'ai vécu avec mon mari une aventure fabuleuse de communion, de foyer.
Votre mari, Philippe, vous a soutenu.
Je dis toujours, c'est celui par qui tout fut possible, parce qu'il a vraiment totalement épousé ma vocation, et que ça a été notre vocation de foyer d'amour qui donne vie.
C'est-à-dire que tout ce que vous nous partagez là s'enracine dans une expérience vécue. La vie dont vous nous parlez, c'est cette vie humaine, c'est ce concret.
Monsieur, je vous remercie. Tout s'enracine dans une expérience vécue. On ne peut vraiment expliquer, on ne peut parler, je dirais, de quelque chose que quand on l'a vécu. Nous devons être parole de vie. Je pense que la parole chrétienne, c'est une parole de vie. Exprime un vécu.
D'où l'importance de l'incarnation, de cette incarnation de Jésus-Christ.
Et l'importance de l'incarnation, monsieur, alors merci de comprendre si vite. De comprendre si vite, finalement. Tu portes en toi quelqu'un de plus grand que toi. Tu portes en toi ce germe de vie divine. Cette découverte de la relation vitale Dieu-homme. Jésus-Christ nous a révélé ça. Il y a une relation vitale entre Dieu et l'homme. Avant Jésus-Christ, Dieu était tout là-haut, puis l'homme était ici. Tu portes donc en toi quelque chose de Dieu. Et j'ai appelé ça un germe de vie divine, un germe divin. Et un germe est fait pour germer dans nos petites terres humaines, toutes différentes les unes des autres.
Saudade, saudade.
Marguerite Opneau, je rappelle que vous êtes la fondatrice du mouvement Sève. Vous nous parliez il y a quelques instants de ce germe de vie qui est en chacun de nous. Qu'est-ce que c'est que ce germe de vie? Et comment le faire grandir?
Ce germe de vie, c'est un germe d'amour. Alors, à partir du moment où vous avez pris conscience de cela, tu portes en toi quelqu'un de plus grand que toi. Mais tous les hommes portent en eux quelqu'un de plus grand qu'eux. C'est pas réservé aux chrétiens. Tous les hommes naissent enfants de Dieu. Tous les hommes portent en eux un germe de vie divine. Oh, c'est quelque chose d'extraordinaire, cela. Donc, tous les hommes portent en eux quelqu'un de plus grand qu'eux. Et ça a changé mon regard, ça. Sur moi-même et sur les autres. Sur chacun de nous, sur soi-même d'abord. Ben, quel cadeau nous avons reçu de Dieu. D'être porteur d'un germe de sa vie. Mais c'est un trésor que tu portes en toi. Ne l'oublie jamais. Et ça donne confiance. Mais alors, ça change mon regard sur les autres. Cher monsieur, ça me change mon regard sur vous. Mais il porte en lui quelqu'un de plus grand que lui. C'est ce regard d'amour qui fait être. Voyez-vous, je crois que la première chose tellement féconde de cette découverte-là, c'est le regard que l'on va porter sur les autres. Autrement, on se dit toujours, il a l'air d'eux. Mais non, il n'a pas l'air d'eux. Moi, quand je vous regarde, je me dis, oh, comme il est bien. Il est encore mieux que ce que je vois. C'est un regard d'amour qui fait être. J'estime, voyez-vous, je dis toujours ça aux professeurs, aux parents, aux confesseurs. Mais regardez les êtres avec amour. Tu portes en toi quelqu'un de plus grand que toi. On n'existe pas quand on n'a pas été regardé par quelqu'un qui croit en nous. Pour moi, c'est le grand secret de l'éducation. L'éducation doit faire être plus les êtres humains. Je crois en toi, tu portes en toi quelqu'un de plus grand que toi. On n'existe pas quand on n'a pas été regardé par quelqu'un qui croit en nous. J'ose le répéter. Parce que pour moi, c'est l'essentiel de l'éducation.
Marguerite Opneau, vous nous avez parlé de la vie, et il y a ce mot qui revient sans cesse chez vous, c'est ce mot d'amour. L'amour, on en parle sans arrêt autour de nous. On aime le chocolat, on aime la musique, on aime... Qu'est-ce qu'il veut dire dans votre bouche, ce mot amour?
Et bien justement, n'est-ce pas, il y a deux interprétations de l'amour. Ce mot est complètement... Eh bien, n'est-ce pas, en effet, comme vous dites, on aime le chocolat, j'aime le pieux. Dans quelques temps, je pourrais mieux aimer la pâte d'amande. Hein.
Oui.
C'est pas ça.
On aime la musique, on aime sa femme, on utilise le même mot.
Là.
Et on aime Dieu.
Et puis on nous dit, on peut tout de même pas aimer tout le monde. Ah, j'ai dit, si, on doit aimer tout le monde. Mais pas de sentiment. En riant, comme ça le dit une femme, tu peux pas aimer tous les hommes, tout de même, comme ton mari. Tu choisis ton mari. Ça, c'est l'amour-sentiment, oui. Mais il faut poser sur tous les êtres humains ce regard d'amour. Vous comprenez? Il faut aimer tous les hommes, c'est ça que ça veut dire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus-Christ a aimé tous les hommes, vous comprenez? Tous les êtres humains. Alors ça, c'est cet amour, ce regard d'amour qui fait être. Aimer, finalement, c'est faire être. Aimer, c'est faire être l'autre. Dieu est amour, il fait être. Et nous devons, nous, non pas simplement aimer de sentiments, mais aimer de ce regard créateur qui fait être plus.
Mais comment? Parce que c'est merveilleux, je vous entends. Bien sûr, ça fait envie. Mais comment vivre ça?
Alors, n'est-ce pas, je voudrais reprendre ce mot amour. Monsieur, est-ce qu'on peut vous forcer à aimer?
Je pense pas.
Ben non. On ne peut pas nous forcer à aimer. Alors, Dieu qui est l'amour ne nous force pas non plus. Dieu ne s'impose pas, il se propose. Vous savez, c'est très important ce que je vous dis là. Et Jésus-Christ nous a révélé que Dieu nous avait fait passer de l'obéissance servile à la loi à la liberté de l'amour. Tu es libre, tu peux dire oui ou non. Mais la liberté n'est pas l'indépendance. On confond souvent la liberté et l'indépendance. L'indépendance, c'est je peux faire maintenant n'importe quoi ce que je veux. Ah non! La liberté, c'est l'appel à la fidélité. L'unique dépendance de l'amour.
Donc il ne peut y avoir amour vraiment que dans la liberté.
Que dans la liberté. Tu n'es pas faire forcé. Vous ne serez plus serviteurs, mes amis.
Voilà. C'est pour ça que Dieu ne s'impose pas et que l'on
peut
ne pas croire en lui.
Jésus-Christ nous a fait passer justement de l'obéissance servile à la liberté de l'amour. Tu peux dire oui ou non, c'est la dignité de la personne humaine. Et on ressent bien ça à l'heure actuelle. Tous les êtres aspirent à la liberté, à la dignité de leur personne.
Alors je me permets de reposer ma question, Marguerite Hoppenot. Comment faire pour aimer ?
Alors comment faire pour aimer ?
Ou pour vivre un tel projet d'amour ?
Voyez-vous, je voudrais reprendre ces deux petits mots. Tu as la possibilité de dire oui ou non. Tu n'es pas forcé. Alors tu as dans le cœur une petite tendance à dire oui, puis une petite tendance à dire non. Quand je suis avec mes arrière-petits-enfants comme ça, j'aime beaucoup leur parler de leurs deux petites voix. Tu as deux petites voix dans le cœur. Une bonne petite voix qui a toujours envie de dire oui. D'aider maman. Voilà, maman met son couvert, tu vas peut-être l'aider. Tu vas rendre un petit service. Ton petit frère t'a donné une tape là. Est-ce que tu vas lui rendre ? Mais non, tu ne vas pas la lui rendre, etc. Une bonne petite voix. Mais tu as une mauvaise petite voix qui a toujours envie de dire non aussi. Le oui et le non, c'est ça la liberté. Alors, vous me demandez comment faire. Eh bien, cher monsieur, il faut devenir un oui. Il faut devenir un oui à l'amour. Et je pense que la Vierge, c'est ce qu'elle a entendu un beau jour. Elle n'a pas dû entendre « tu seras » parce qu'elle n'aurait pas été libre. Mais elle a entendu « veux-tu ? » « Veux-tu donner vie à l'amour ? » Si peu que ce soit.
Donc, le oui, ce sont des petits oui concrets dans la vie de tous les jours.
Eh bien, le oui, d'abord, il faut en dire un grand. Un jour, est-ce que tu veux choisir l'amour comme chemin de ta vie ? Jésus-Christ dit « je suis le chemin aussi ». Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin qui conduit à la vérité de la vie. Alors, un chemin, c'est long, hein ? Mais il faut le choisir. On ne peut pas marcher sur deux ou trois chemins à la fois. Alors un jour, vous avez reçu, vous aussi, votre petite annonciation. Veux-tu choisir la vie de l'amour comme chemin de sa vie ? Alors, on va tâcher de dire un vrai oui. Et puis après ça, ça va se réaliser avec des petits oui. Des tout petits oui, quelquefois, quotidien. Voilà. Est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux ceci ? Ah oui. Est-ce que tu veux te venger ? Ben non. Est-ce que tu veux dire du mal de telle personne ? Ben non. Allez, ces petits oui, ouvre ton cœur au-delà de toi. Nous sommes enfermés en nous-mêmes, vous savez, notre égocentrisme. C'est notre ennemi mortel, ça. Voilà. Alors veux-tu ? Veux-tu dire oui à l'amour ? Et c'est tous ces petits oui les uns après les autres qui peu à peu font grandir l'amour en notre cœur. Or, l'amour, si je sais bien ce que c'est Dieu.
Je rappelle que vous êtes fondatrice du mouvement Sève. Tout à l'heure, quand vous nous présentiez votre intuition, ce que vous avez découvert au cours de toutes ces années de réflexion, de maturation de la parole, il y a une phrase qui vous a interpellé fortement, c'est celle-ci. « Père, qu'il soit un pour que le monde croie ». J'aimerais maintenant que vous nous parliez de cette unité qui semble être un mot également très important pour vous.
Voyez-vous, le mot « unité » est un mot très important, mais qui est sujet à confusion aussi. On confond très souvent unité et uniformité. Or, justement, l'unité est le contraire de l'uniformité. L'unité implique union des différences. C'est ça le mystère de la vie, d'ailleurs. Le mystère de la vie ne naît que de l'unité des différences. Alors que je vous parle, par exemple, ça va depuis le couple conjugal, la famille, l'unité d'une entreprise, d'une paroisse, l'unité d'un village, d'une nation, l'unité de l'Europe, on en parle tellement en ce moment, vous comprenez. On ne va pas faire tout le monde pareil. Et jusqu'à l'unité des chrétiens. Voilà.
S'enrichir de la différence des autres.
L'unité en somme s'enrichit de toutes les différences lorsqu'elles sont accordées par l'amour. En somme, les diversités sont contradictoires et amènent les divisions et les guerres si elles ne sont pas harmonisées par l'amour. Parce que c'est la loi du plus fort, c'est le plus fort qui va écraser le plus faible. Ah, si nous suivons la loi de l'amour, les diversités accordées par l'amour, alors ça fait un plus-être, un plus-vie fantastique. La richesse de la vie s'enrichit de toutes les différences. Mais uniquement lorsqu'elles sont accordées par l'amour. Et j'aime beaucoup ce petit mot accordé. Parce que accordé, vous savez, au petit diapason sacré que nous portons en nous. J'appelle ça un petit diapason sacré, ce germe divin, ce germe de vie divine, ce germe d'amour que nous portons tous dans notre cœur.
C'est un peu comme un orchestre.
Alors, vous parlez d'un orchestre, vous écoutez. Alors, je vais vous dire. Comment j'explique justement la fécondité de l'unité? Un petit orchestre. Bon, il y a les premiers violons, les seconds violons, les altos, les violoncelles, les contrebasses, et puis la petite flûte à coulisses, la flûte à piston, le trombone, et puis la petite harpe, et puis la grosse caisse, quelquefois, une fois une grosse caisse, quelquefois, vous comprenez? Tous ces instruments sont différents, et ils jouent tous parfaitement leur instrument, et ils jouent connaissent parfaitement leur partition. Qu'est-ce que vous voyez au début de l'orchestre? On s'accorde au diapason. Si tous ces instruments différents s'accordent au diapason, ça fait une symphonie. S'ils ne s'accordent pas au diapason, ils jouent tous parfaitement et ça fait une cacophonie. Je ne peux pas vous donner de façon plus concrète exactement ce que je pense. Et nous en revenons au début de notre entretien, cher monsieur. Ce petit diapason sacré qui a réalisé la commune union d'amour, d'êtres différents, eh bien c'est ce petit germe de vie d'amour que nous avons dans notre cœur, auquel il faut dire oui, mais nous pouvons dire non. Et tout le problème est là. Est-ce que tu seras un oui? Est-ce que tu seras un non à l'amour?
Si vous le désirez, vous pouvez retrouver Marguerite Openeau, que nous venons d'entendre, dans le mensuel Panorama de ce mois-ci, le Panorama du mois de mai. Agnès Ochitska lui consacre une interview sur le thème « La femme dans la société et dans l'Église ». Je vous signale également l'émission sur Antenne 2, « Le jour du Seigneur », une émission qui sera également consacrée à Marguerite Openeau, le dimanche 16 mai à 10h30, un reportage signé Albéric de Palmar. Marguerite Openeau a également écrit quelques ouvrages qui sont disponibles en librairie. C'est le cas notamment de « Cette vie qui m'est donnée » chez Plon, « Le temps du feu » au Cerf, et Plein pouvoir à l'Esprit Saint, également aux éditions du Cerf, un livre qui relate les rencontres de Marguerite Openeau avec le pasteur Marc Bogner. Et puis si vous désirez des renseignements concernant le mouvement Sève, je vous donne un numéro de téléphone à Paris, le 16-1 si vous appelez de province, 47-20-80-51. 47-20-80-51. Cette émission Témoin aujourd'hui a été réalisée pour Fourvière FM par Thierry Lyonnais. Collaboration technique, Pascal Putman.